Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview de notre événement Manager Demain. Je suis ravi de vous retrouver pour accueillir une invitée exceptionnelle, vous allez voir, une influenceuse très connue dans le monde du bien-être au travail. J'ai nommé Laura Belconde, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sous le nom, le pseudonyme de Laura Bien-être au travail, mais on va voir que ça va bientôt changer. Bienvenue Laura, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. C'était illogique de parler d'un sujet tel que la confiance, le bien-être, de parler de manager demain, de l'avenir du management, sans t'inviter au vu de l'impact que tu vas avoir et de l'impact de ce que tu es en train de créer, que cela va avoir dans le monde du travail. Donc, je voulais absolument que tu viennes nous en parler. Donc, Laura, pour ceux qui ne te, les quelques rares personnes à travers le monde et l'univers qui ne te connaîtraient pas, tu es très connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Laura Bien-être au travail. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur qui tu es et ce que tu fais?
Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Laura Belconde, je suis la fondatrice de The Good Boss, je suis spécialisée en performance sociale et je suis aussi sur les réseaux sociaux. J'analyse et je vulgarise le monde du travail sous le pseudonyme de Laura Bien-être au travail, mais qui va passer très rapidement sous The Good Boss. Et The Good Boss, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un peu le Google Maps du travail. C'est une plateforme qui vient mettre sur une map les entreprises et leurs initiatives internes, QVCT, RSE. Et donc, c'est une initiative qui inverse le processus de recrutement. Au lieu d'aller chercher des offres d'emploi, on va d'abord aller chercher des entreprises autour de chez nous, donc du domicile, et on va aller filtrer sur les attentes qu'on a d'une entreprise selon notre réalité de vie, télétravail, horaires flexibles, politique sur la parentalité, les salariés aidants, le sport, les chiens au bureau. Il y a plein de filtres et donc ça permet de trouver des employeurs vraiment en adéquation avec notre vie. Et à partir de septembre, les entreprises auront aussi un score de bien-être au travail vécu en interne. Voilà.
Vous voyez, quand je vous disais que Laura est à l'origine d'une future révolution, vous avez déjà un aperçu, on va aller creuser tout ça justement. Oh oui, je n'ai pas trop de doutes. mais justement, ce qui m'intéresserait, si c'est OK qu'on commence directement dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle beaucoup de marque employeur, on va beaucoup parler de preuves justement employeur. Mais moi, j'aimerais justement savoir dans ton parcours, toi, dans ton vécu, qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce que tu as traversé, vécu, qui t'ont, dans le monde du travail, qui t'ont amené à cette envie de créer ce projet The Good Boss?
Ouais, alors moi j'étais dans le salariat, j'étais consultante e-commerce et en août 2021 j'ai fait un gros épuisement professionnel et à l'époque j'étais d'abord très en colère contre mon manager et en même temps je me disais mais pour moi c'était les autres qui faisaient des burn-out, genre pourquoi ça m'arrive? Et donc en faisant des recherches sur le sujet d'abord pour guérir et puis après par obsession, je me suis aperçue que au-delà que vraiment beaucoup de salariés sont mal au travail, il s'avère que les RH et managers sont tout aussi mal au travail, voire plus. Et quand on creuse un peu, c'est aussi le cas pour les dirigeants, voire plus. Et donc, je me suis posé la question, genre, pourquoi tout le monde est mal au travail à toutes les strates de la hiérarchie et dans tous les secteurs d'activité, finalement. Et donc, je continue mes recherches et je m'aperçois qu'en fait, le mal-être au travail n'est pas une question de quelques petits managers toxiques. En fait, il est systémique. Il part d'un système injuste où, avec la mondialisation, la digitalisation, on a une hyper-compétitivité des entreprises. On a eu beaucoup de concurrence déloyale. Encore aujourd'hui, on amène des produits sur notre territoire alors que les entreprises n'ont pas la même fiscalité, les mêmes conditions de travail, les mêmes normes sanitaires, sociales et environnementales. Et ces produits arrivent sur notre territoire à des prix défiant toute concurrence. Ajoute à ça toutes les mutations qu'on a dans le monde du travail, l'IA, les nouvelles attentes, la diversité, l'inclusion, la RSE, le handicap et j'en passe. Et donc, ce système injuste plus toutes ces mutations, on n'a jamais eu autant de mutations dans le monde du travail et aussi rapidement, génère un stress chronique chez les dirigeants. Et malheureusement, en France, on a tendance à se dire, bon, bah, pour qu'on performe un max, pour qu'on garde la tête hors de l'eau, bah, on va serrer la vis. On va serrer la vis, on va mettre des KPIs très élevés, comme ça les gens vont performer au max. On va serrer un peu le management et les règles, comme ça les gens seront cadrés. On va faire en sorte qu'ils soient présents pour qu'ils soient très productifs. Je dis malheureusement, vu que ce mindset a été complètement dézingué par la science, mais ce mindset redescend sur les managers et les RH, et ce stress chronique des managers et des RH retombe sur les salariés. Et donc à l'époque, je m'aperçois qu'en fait le mal-être est systémique, que la science démontre que ben, en fait ce mindset performance égale serrer la vis est complètement faux, et qu'en fait pour performer au max, il faut satisfaire les besoins fondamentaux au travail. Une entreprise est pilotée par des humains, et les humains, pour qu'ils performent à leur max, il faut satisfaire leurs besoins fondamentaux au travail, autrement dit leur épanouissement et leur santé au travail. Et puis je m'aperçois aussi que bah, les gens sont de plus en plus mal au travail vis-à-vis de ce système, de ces modèles de travail qui deviennent trop obsolètes par rapport aux mutations. Et bah, du coup, quand ils sont mal au travail, soit ils se désengagent, soit ils se mettent en arrêt maladie, soit ils démissionnent. Et quand ils démissionnent, ben en fait, ils se disent Inch'Allah, ça va bien se passer dans la prochaine. Et donc, en fait, ils sautent d'entreprise en entreprise comme ça, sans forcément aller mieux, parce que, en fait, il y a une opacité, de l'information des entreprises vis-à-vis des talents. Et voilà, on ne sait pas où on va mettre les pieds. Donc voilà, c'est un peu les trois choses que je me suis rendu compte, dans le monde du travail qui m'ont poussée à faire des recherches sur le sujet. Donc je me suis formée avec Harvard, Berkeley, etc. J'ai fait un travail de recherche. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'est, enfin, les besoins fondamentaux au travail, pouvaient être catégorisés en six piliers, six grands piliers, le sens, la considération, l'accomplissement professionnel, l'épanouissement personnel, les relations sociales et la santé physique et mentale. Et en fait, The Good Boss part de ces six piliers. C'est les six piliers qui permettent d'avoir à la fois le bien-être individuel et la performance individuelle, collective et in fine économique de l'entreprise. Et The Good Boss part de là. Voilà.
Oh, on va aller creuser tout ça, j'ai hâte. Et pour information, peut-être que tu l'as vu passer, en tout cas, si globalement, vous aussi, si vous ne l'avez pas vu passer, allez voir. Il y a le dernier rapport de l'Institut Gallup qui est sorti récemment, 2026, qui est totalement aligné avec ce que tu dis, et notamment qui observe un truc qu'on n'observait pas auparavant, c'est qu'on a un décrochage complet des managers qui n'en peuvent plus. Avec toutes les strates que tu rajoutais, ça devient tellement contraignant que cette zone de compression qu'est le manager est en train d'exploser.
Ah
Et
bah
il
oui.
parle de 10 000 milliards de pertes de productivité sur le monde du fait justement de cette augmentation de strates constante. Donc là, c'est en train de, non seulement de... Ça se voyait, mais là, c'est en train d'exploser. Donc
Ouais.
je pense que ton initiative arrive à point nommé. Alors, pendant longtemps, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de marque employeur dans les entreprises. Ça a été une grande mode. Là, tu nous parlais de preuves concrètes. J'aime beaucoup. Et donc, justement, qu'est-ce qui a changé dans le rapport de confiance entre les talents et les entreprises, selon toi?
Moi, je pense qu'il y a une crise de la confiance dans les entreprises à tous les niveaux. D'abord, employeur vis-à-vis des talents. Bah, surtout à cause du désengagement, des arrêts maladie, des démissions. Tout ça génère une méfiance en fait des employeurs vis-à-vis des talents, et donc c'est pour ça qu'ils vont aussi durcir le management, etc. Et c'est un cercle vicieux. Mais c'est aussi le cas dans l'autre sens. J'ai l'impression que les talents n'ont plus vraiment confiance Dans les employeurs, ça commence par le recrutement. Je te l'ai dit, il y a une opacité de l'information. Et quand l'employeur voilà, communique sur les bonnes initiatives internes et que de l'autre côté, quand ils arrivent, en fait, ce n'est pas la réalité du vécu, il y a une perte de confiance considérable vis-à-vis des talents qui génère du coup du désengagement, des arrêts maladie, des démissions. On est dans un cercle vicieux. Et donc voilà, je me souviens plus de ta question, mais pour moi, il y a une crise de il y a une crise de la confiance des deux côtés.
Ah mais tu as parfaitement répondu à la question, je te remercie. Et justement, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sais, tu parles du fait que, il peut y avoir des dissonances entre ce que l'entreprise va affirmer, nous on est comme ci, nous on est comme ça, et après il y a une forme de désillusion des collaborateurs une fois qu'ils sont dedans et qu'ils voient la réalité des choses. Donc, qu'est-ce qui permet de savoir réellement si ces affirmations, on est humain, flexible, inclusif, on fait attention à l'équilibre de vie. Donc, qu'est-ce qui permet de voir concrètement si ça, c'est réel ou si c'est seulement du déclaratif, de la poudre aux yeux?
Alors juste pour compléter ma réponse de tout à l'heure, j'ai oublié de te dire que évidemment toute cette marque employeur sans preuve en interne, ça marche plus puisqu'on est à l'ère de l'éthique, de la transparence, des réseaux sociaux. Et donc une entreprise qui communique sur ses bonnes initiatives internes mais qui in fine ne reflète pas la réalité, ça peut créer un bad buzz et c'est catastrophique. En fait, on est à l'ère où les gens veulent de l'authenticité. Et vaut mieux dire on a compris, on va s'améliorer et recommuniquer dans 6 mois, 1 an, plutôt que de dire oui, on fait les choses bien et voilà. Donc ça, c'est une chose que les entreprises n'ont pas encore très bien compris. Et pour répondre à ta dernière question, moi, par exemple, sur The Good Boss, donc on a ces initiatives, tu vois, genre politique sur la parentalité, les salariés aidants, la flexibilité des horaires, du télétravail, etc. Comment on peut savoir si c'est réel ou pas? Selon moi, c'est selon s'ils ont mis une vraie politique en interne. Typiquement, je te donne un exemple sur l'équilibre vie pro-vie perso. Moi, il y a des entreprises qui nous disent, nous, c'est un point vraiment crucial chez nous. Je leur réponds, est-ce que vous avez mis en place une politique avec des connexions strictes du travail? Est-ce qu'il y a une politique claire là-dessus? Est-ce qu'on ne peut pas du tout, par exemple, contacter des gens le soir, le week-end ou en télétravail? Et c'est pour ça que sur ma map, c'est pas équilibre vie pro-vie perso, c'est des connexions strictes. C'est pas télétravail, c'est télétravail flexible. Et c'est télétravail flexible au jour du choix de l'employé. Parce que j'estime que le télétravail tout court, quand le poste le permet, évidemment, ça devient la norme en fait. C'est même pas presque une initiative, ça devrait être la norme. Et donc, déjà, les filtres sont un peu plus poussés, je dirais, que la moyenne. Et puis, du coup, je donne l'opportunité aux entreprises de prendre la main sur ces fiches employeurs gratuitement. Et donc, pour toutes ces appellations, donc par exemple, politique salarié aidant, les entreprises peuvent mettre un texte libre où ils mettent exactement ce qu'ils font pour les salariés aidants, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la réponse que j'ai en tout cas pour ces choses-là, pour ces filtres-là.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas juste dire nous on est vigilant à ça, non, c'est prouvez-nous concrètement qu'est-ce que vous avez mis en place et même je dirais au sein de tout ce que vous avez mis en place, il y a finalement plusieurs niveaux presque de ce qui a pu être mis en place par indicateur, par domaine, on va dire.
C'est
Ah,
ça.
c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que globalement, bah, ça peut tirer l'ensemble vers le haut, parce que bah, on se dit, ah tiens, à côté, une entreprise qui est dans le même domaine que nous, dans ce domaine-là, eux, ils font ça, alors que nous, on en est encore là.
Exactement, exactement. Et dis-toi que la map va devenir aussi un outil de veille journalistique. Il y a plusieurs journalistes qui m'ont dit, mais nous, on doit écrire des choses sur les entreprises, on ne sait pas où chercher l'information. Et donc, c'est une map d'abord pour les talents, mais aussi effectivement pour les autres entreprises, pour qu'ils voient ce que la concurrence fait, ce que les autres font, etc., pour, comme tu dis, élever tout le monde vers le haut. C'est aussi un super outil de visibilité pour les médias, pour les réseaux sociaux, vu que toutes les entreprises vont être poussées sur mes réseaux. Donc j'espère que effectivement ça va relever le niveau un peu.
Et alors, c'est intéressant parce que ça nous donne déjà un indicateur, c'est-à-dire que globalement, selon toi, par rapport à ces niveaux de performance sociale que peut apporter l'entreprise, en quoi c'est devenu nécessaire aujourd'hui de mesurer la qualité humaine d'une entreprise?
Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais on a encore ce mindset très très erroné et très très ancré en France de performance égale serrer la vis, égale présentéisme, égale gros KPIs, alors que le vrai mindset serait de se dire, ok, je pilote ma performance financière. D'ailleurs, quand on a des œillères sur juste le financier, en fait, ça a été prouvé que ça détériore le bien-être salarié et donc on est dans un cercle vicieux. Par contre, quand on pilote à la fois le financier et au même niveau l'humain, eh ben, en fait, on satisfait tous les besoins fondamentaux au travail, on permet à tous de se sentir considérés, écoutés pour performer au max, pour être loyal à l'entreprise, dynamique, etc. Et donc, on doit changer de paradigme, de mindset pour vraiment piloter la performance humaine des entreprises et encore plus dans un contexte chaotique de mutation, contexte économique compliqué, etc. L'IA qui arrive, on le sait, plus on digitalise le travail, la société, plus l'humain doit être important.
Oui, et c'est vrai que moi, j'en profite parce que des exemples de situations comme tu cites, en fait, c'est-à-dire par exemple, j'ai pu voir pas mal d'entreprises où, par exemple, tu vas avoir deux services qui font des choses similaires ou des unités qui vont faire des choses similaires. Et d'un côté, il y a une vraie attention au fait que les collaborateurs se sentent bien, que les choses sont mises en place, il y a de la confiance, il y a de la responsabilisation, on est attentif au bien-être. De l'autre côté, beaucoup moins, où on va être plus dans ce côté, on pressurise parce qu'il faut avoir des résultats. Et on voit que finalement, ceux où on est plus dans cet état d'esprit de bien-être et de confiance, ça n'empêche pas d'avoir des règles et des procédures, mais on fait en sorte que globalement, il y ait un périmètre, il y a un cadre, mais à l'intérieur, il y a un vrai niveau de bien-être et de liberté au sein de ce cadre de fonctionnement pour développer l'autonomie, etc. Et en fait, ben, là où il y a plus de bien-être, on voit plus de performance. C'est aussi simple que ça.
Ça c'est sûr, ça a été prouvé, reprouvé, et en fait les employeurs qui ont compris ce mindset de il faut satisfaire les besoins fondamentaux au travail surperforment. Et typiquement, j'en ai pas encore parlé, mais typiquement, tu vois, par exemple, on n'a plus le temps, on n'a plus de temps, le temps est devenu le nouveau luxe à cause des écrans, etc. On passe 3 heures, 4 heures sur les écrans hors travail. Ça veut dire qu'on a moins le temps pour bien manger, pour bien dormir, pour bien passer du temps de qualité avec ses proches, pour faire du sport, etc. Tout ça, c'est nos besoins fondamentaux. Ça veut dire qu'on les remplit pas. Et plus on digitalise la société et le travail, plus il faudrait réduire le temps de travail pour faire en sorte que les gens remplissent leurs besoins fondamentaux et pour qu'ils puissent avoir du repos cognitif avec les écrans, etc. Et les entreprises, par exemple, qui ont mis en place la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail, ont des résultats spectaculaires sur le bien-être salarié et la performance de l'entreprise. Voilà. Ça veut tout
C'est clair.
dire.
C'est ça. Alors tout à l'heure, tu nous parlais de 6 piliers, d'accord?
Oui.
Pour cette preuve employeur, est-ce que tu serais OK de nous en dire un peu plus sur ce que sont ces 6 piliers? Tu les as cités, mais donne-nous un peu plus d'infos aussi, si tu es OK.
Oui, bah alors je les répète, il y a le sens, la considération, l'accomplissement professionnel, l'épanouissement personnel, les relations sociales et la santé physique et mentale. D'ailleurs, je me suis aperçue quand j'ai développé la solution du protocole que ce sont les 6 piliers qui permettent d'éviter les types de burn-out qui existent.
D'accord.
Donc le burn-out avec la perte de sens. Et donc le sens est Est-ce qu'on est aligné avec les valeurs de l'entreprise? Est-ce que notre poste est aligné voilà, avec ce qu'on veut faire vraiment? Est-ce que tu vois, par exemple, même plus globalement, quelqu'un qui est très investi, j'en sais rien, moi, sur l'écologie, quand il est dans une entreprise très polluante, où, in fine, il va plus avoir de sens au travail, et c'est le cas aussi, on voit très souvent les conflits de valeurs entre ce que veulent les gens et la réalité du terrain, avec parfois des décisions pas très humaines de la direction. Voilà, ça, c'est tout ce qui est dans le pilier sens. La considération, c'est aujourd'hui, on a des entreprises qui veulent surtout que les gens rentrent dans la case entreprise. Tu vois, bon, bah, nous, c'est 9h, 18h de travail. Tu nous demandes du télétravail aujourd'hui parce que tu as ton premier jour de règle ou parce que tu veux aller chez le médecin, machin, mais c'est pas nous de gérer ta vie. Si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça, alors qu'on est censé en fait partir vers des organisations plus flexibles, plus souples, plus adaptées aux réalités de vie de chacun, qui sont vraiment très disparates entre les gens. Les maladies chroniques explosent, les troubles musculo-squelettiques explosent aussi. Et donc, voilà, les réalités des uns et des autres sont complètement différentes. Certains sont neuro-atypiques, salariés aidants, etc. Et donc, considérer les gens, c'est finalement adapter les façons de travailler en fonction des gens. L'accomplissement professionnel, c'est, comme son nom l'indique, tout ce qui va faire qu'on peut s'accomplir professionnellement, les formations, les feedbacks, etc. Ne pas s'ennuyer au travail. On peut partir sur du slashing interne, ce qui veut dire avoir potentiellement deux postes complètement différents en interne. Parce qu'on est des générations de l'expérience. En fait, oui, à partir des millennials, on scrolle les expériences, entre guillemets, dans la vie en général, et on arrive au travail, on a une tâche à faire tous les jours, toute la semaine, pendant un an, et puis des années. Et donc, en fait, il faut repenser aussi le mode de travail. Ça, c'est l'accomplissement professionnel. L'épanouissement personnel, c'est comment l'entreprise fait en sorte qu'on ait du temps pour la vie, en fait, pour satisfaire aussi nos besoins. J'en ai parlé tout à l'heure, bien dormir, bien manger, se faire à manger, avoir des relations de qualité avec ses proches, faire du sport, etc. Donc, comment on fait pour que l'entreprise ait ce bon équilibre travail perso? Les relations sociales. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de bonnes relations sociales, y compris au travail. Et donc, comment on fait pour instaurer de la confiance avec les managers? Comment on fait pour fédérer l'équipe, pour avoir un sentiment d'appartenance dans l'entreprise? On entend, tu vois, moi, je débunk beaucoup cette phrase, personne n'est irremplaçable. Voilà, ça, c'est la phrase qui dézingue toute la partie relations sociales qui dézingue la confiance en fait que peuvent avoir les talents envers l'entreprise. Donc il faut vraiment instaurer un sentiment d'appartenance au groupe en fait et la santé physique et mentale. Ben voilà, les troubles musculo-squelettiques, je l'ai dit, ont explosé. Donc il faut avoir des outils ergonomiques, faire potentiellement avoir des bureaux assis debout. Permettre de brainstormer, tu vois, en marchant, c'est ce que faisait Steve Jobs avec ses équipes. En France, on ne le voit pas, ça. Hein. Puis la santé mentale, tout faire pour les risques psychosociaux, pour pas être en épuisement professionnel, voilà, tout ce qui est autour de la santé mentale. Et donc, en fait, tous ces piliers-là sont interconnectés et il y a un pilier qui s'effondre, tous les autres s'effondrent.
D'accord. Oui, donc il y a vraiment un. Oui, je dirais que c'est une sorte de structure finalement où voilà, tout va influencer l'ensemble des autres piliers. Donc c'est hyper intéressant. Alors, on sait que les entreprises veulent attirer les talents. Alors, elles oublient parfois justement que la confiance, ça se joue surtout après le recrutement. C'est bien, une belle image, je veux recruter. Mais une fois que je suis que j'ai recruté, ça y est, cool, j'ai un collaborateur, je vais investir dessus. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un collaborateur se dit, au bout de, je sais pas, quelques mois en poste, ouais, cette entreprise, elle est parfaitement alignée, elle est cohérente entre ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle fait, c'est nickel. C'est ça.
Bah, tu vois, je vais te raconter, moi, mon dernier taf salariat où j'ai été embauchée. J'avais le choix entre plusieurs entreprises. Et il y a une entreprise qui m'a dit, mais tu sais, chez nous, il y a 30 missions dans le pipe là, avec des gros clients, luxe. Tu vas pouvoir choisir celle qui te plaît, etc. Et donc, entre les trois entreprises où voilà, j'hésitais, ben, en fin de compte, je suis allée vers cette entreprise-là. Pour ça, je suis arrivée et on m'a dit, voilà ta mission. Et je lui dis, mais alors attends, on m'a dit que je pouvais choisir. Ah non, mais ici, dans le conseil, c'est pas comme ça. Hein. Et donc déjà, la perte de confiance en 24 heures top chrono, tu vois, c'était catastrophique. Et donc, oui, déjà, il faut absolument que les employeurs disent la vérité. Voilà, je pense que c'est vraiment, on est dans une ère de la transparence. Et moi, je préfère 1000 fois une entreprise qui dise, ben voilà, nous, sur ces sujets-là, on n'est pas foufou, mais on écoute, on a entendu, et du coup, on est en train de mettre des choses en place et pour que dans 6 mois, 1 an, ça soit vraiment clean, on ait des salariés heureux, etc., plutôt que des entreprises qui disent, ah ouais, nous, alors, nous, équilibre vie pro-vie perso à fond, on a un management bienveillant, blablabla, et qu'au final, on se retrouve avec des salariés qui sont hyper mal au travail parce que le management leur correspond pas, parce que si, parce que ça. Donc non, c'est très compliqué. Par contre, je pense qu'il faut deux niveaux de transparence, et c'est pour ça que moi j'ai buildé The Good Boss. C'est que la première couche, c'est de la transparence déclarative avec qu'est-ce que fait l'entreprise concrètement, parce que avec toutes les mutations qu'on a dans le monde du travail, les entreprises ne peuvent pas être sur tous les fronts. Surtout les PME, les grands groupes, à la limite, why not? Mais les PME, elles ne peuvent pas être hyper engagées sur le handicap, l'inclusion, la parentalité, la santé mentale, la santé physique. Surtout quand on n'a pas des départements dédiés et qu'il n'y a que les dirigeants, voire une RH qui fait tout. Et donc, en fait, c'est de dire ouvertement, voilà, nous, on s'engage sur ça, sur l'emploi des jeunes, sur l'emploi des seniors, sur la parentalité. On est très fort là-dessus. On va s'améliorer au fur et à mesure sur les autres, mais on est très, très fort là-dessus. Et en fait, c'est pour ça que le premier palier de transparence déclarative va pouvoir faire matcher avec les réalités de vie de chacun. Et donc, pour The Goose Boss, typiquement, il n'y a pas, c'est du déclaratif. Moi, je vérifie rien. Et par contre, le pilier au-dessus, c'est la transparence réelle perçue. Et c'est pour ça qu'à partir de septembre, il y aura un score de bien-être au travail qui sera généré via un diagnostic interne salarié que j'ai mis en place. Et les employeurs pourront l'afficher en transparence ou pas sur la map. Et ils seront fortement incités à le mettre en place puisque les entreprises seront triées. En fait, un tri intelligent entre les entreprises référencées par The Good Boss, les entreprises prises en main mais sans diagnostic, et tout en haut, les entreprises avec diagnostic qui veulent bien afficher leur score. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui affiche un mauvais score sera quand même plus visible qu'une entreprise qui n'affiche pas son score. Donc j'espère qu'il y aura plus de transparence du coup pour les talents. Et évidemment, je m'arrête pas là. J'aide les employeurs du coup à s'améliorer avec le protocole. C'est le premier protocole pour moi autonome et digital de performance humaine. C'est un vrai GPS du travail humain basé sur les 6 piliers qui va définir, qui va montrer aux employeurs par où il faut commencer, comment et pourquoi, et ce qui permet d'ajuster les environnements de travail et les façons de travailler selon les attentes, enfin les besoins fondamentaux des salariés qui évoluent en fonction des mutations. Donc ils vont pouvoir s'améliorer en totale autonomie et sans consultant. Voilà.
Tu veux me mettre au... Non, je plaisante.
Non, parce qu'on aura toujours besoin. On aura toujours besoin d'experts pour former et pour sensibiliser. Mais derrière, moi, je mets en relation avec tous les experts partenaires. Tu vois, typiquement, je parlais des outils ergonomiques tout à l'heure. Ce n'est pas moi, Laura, qui vais créer une table assise debout et qui vais
Bien sûr.
l'implémenter. Du coup, je mets en relation les employeurs avec les partenaires experts dédiés dans les leviers. Voilà.
Je plaisante, mais c'est vrai que c'est génial qu'ils puissent devenir autonomes et c'est ça l'idée, si comme tu le dis, si je me trompe, qu'ils soient autonomes finalement dans leur auto-diagnostic, dans les axes de prise en charge, dans les axes d'amélioration et comment les mettre. Et après, bah, derrière, aller chercher les outils, les intervenants qui vont leur permettre de progresser dans les différents items. Donc c'est
C'est ça.
absolument génial. Et tout à l'heure, tu vois, j'allais. Il y a une question qui allait sortir toute seule au moment où
Ouais.
tu parlais, qui est venue et tu l'as dit naturellement, donc comme quoi c'était évident. Mais
OK.
j'adore cette idée du septième pilier qui est tout simplement la transparence, l'honnêteté.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, bien chapeauter le tout en fait.
Bien sûr, c'est ça.
Alors, justement avec The Good Boss, tu vas rendre visible comme ça ces entreprises qui repensent concrètement leur méthode, leur travail, le bien-être au travail. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans la manière dont on reconnaît, compare? Tu nous as déjà dit beaucoup de choses, hein, mais en synthèse, qu'est-ce que tu aimerais changer dans la manière dont on reconnaît, compare ou valorise les entreprises de demain?
Oui.
Ce serait quoi pour toi, je dirais, une sorte de hiérarchisation ou d'état d'esprit que ça va créer?
Alors, pour moi, sans aucun doute, les entreprises les plus attractives, compétitives et performantes de demain seront les entreprises les plus humaines et les plus éthiques. Ça, j'en suis sûre. Maintenant, il faut changer de mindset. On a encore, je te le dis, un mindset très, très, très erroné, très ancré en France. Et je pense qu'il va aller falloir chercher, tu vois, tous les partenaires financiers, les banques, les investisseurs, pour qu'ils comprennent ce mindset, pour qu'il y ait vraiment des KPIs complètement obligatoires sur la performance humaine des entreprises. Moi, je dis toujours, quand je pitch mon projet devant des financiers, mettez deux entreprises du même secteur au même niveau, même taille, mêmes effectifs, même produit. L'un a des salariés mal au travail, qui démissionnent tout le temps, qui se mettent en arrêt maladie, qui sont désengagés, qui véhiculent une mauvaise image de marque autour d'eux. L'autre a des salariés complètement épanouis, en bonne santé, considérés, et donc qui performent au max, qui vont être les premiers à supporter l'entreprise auprès des proches, etc., qui va générer aussi du chiffre d'affaires. Mettez les deux au même niveau, ce n'est pas la même en termes de rentabilité. Et c'est, je pense que c'est ça qu'il va falloir aller chercher et prouver à partir du moment où je pense qu'on aura le top. Tu vois, les financiers, les banques, les investisseurs, ça va découler sur les dirigeants et in fine, on va rentrer dans un cercle vertueux. Et comment les trouver? Comment les trouver? Ben, sur The Good Boss, hein,
Oui.
avec le score que je vais mettre en place, et puis in fine, les sites, donc les établissements seront labellisés. Donc c'est au niveau site et pas au niveau entreprise, parce que j'estime que les conditions de travail sont différentes entre les sites, mais il y aura une labellisation avec un impact interne sur les salariés et un impact externe, je spoil, hein, parce que personne ne le sait, mais avec un impact aussi externe sur comment on valorise aussi les partenaires, les prestataires, les clients. Est-ce que on s'assure que les produits sont en adéquation avec ces six piliers de la considération de la santé, etc., aussi sur l'externe. Donc, il va y avoir aussi un côté très écologique puisque l'humain et l'environnement sont intimement liés. Donc, j'espère, in fine, que ça va créer le standard du travail humain. En tout cas, je l'espère et tout le monde croise les doigts avec moi.
Je crois aussi. En tout cas, bravo Laura pour cette magnifique initiative. Voilà, je pense qu'on est sur une vraie révolution, une vraie inversion de la manière de voir les choses. Et donc, je pense que ça va être un vrai tremplin, une vraie accélération à la fois de la performance et du bien-être au travail, puisqu'comme on l'a dit, c'est très lié. Alors, imaginons maintenant que je sois une entreprise. Et je me
Oui.
dis, il faut absolument que je sois référencé chez The Good Boss. Je fais comment?
Ouais, alors peut-être que les entreprises sont déjà référencées, hein, parce que le premier niveau, c'est The Good Boss qui référence progressivement toutes les entreprises du secteur tertiaire, sans exception, avec les données publiques. Et donc, moi, je propose aux entreprises soit d'identifier leur entreprise sur la map et de prendre la main dessus, soit s'ils ne trouvent pas leur entreprise, de l'ajouter directement. Et dans les deux cas, c'est totalement gratuit. Voilà. C'est gratuit pour les talents, c'est gratuit pour les employeurs. J'ai un autre business model que je veux pas en parler maintenant, mais tout ça est gratuit pour les deux côtés. Donc les employeurs peuvent mettre toutes leurs initiatives internes, peuvent mettre une description, des photos, peuvent faire appel à moi pour une immersion. Donc en 1 minute, le talent voit exactement comment sont les locaux, quelles sont les initiatives, toujours dans cette optique de on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller chercher sur tous les sites ce que font les employeurs en interne et comment sont les bureaux. Ils peuvent mettre leurs indicateurs, leurs labels. Enfin, il y a plein de choses pour avoir une fiche entreprise complète et tout ça, c'est gratuit. Voilà. Donc, ils peuvent se référencer dès maintenant. Le site est en ligne. Ils ont juste à créer un compte employeur et ensuite à prendre la main en totale autonomie sur leurs fiches qu'ils peuvent modifier à n'importe quel moment.
Super. Donc, chers dirigeants, RH, etc., allez vite vous connecter sur The Good Boss, pardon, créer votre marque en votre compte employeur pour pouvoir optimiser votre fiche, puisqu'il y a de fortes chances que votre entreprise soit déjà référencée sur The Good Boss. Et où est-ce qu'on te retrouve, ma chère Laura?
Alors, sur les réseaux sociaux, je vais passer tous mes réseaux là en The Good Boss. Donc, si vous voulez me suivre déjà sur la page LinkedIn The Good Boss, je suis aussi sur Instagram, TikTok, YouTube The Good Boss et sur LinkedIn perso, c'est Laura Belconde. Voilà. Et moi, en tant qu'entrepreneur, du coup, qui monte une société, je vais aussi essayer de montrer l'exemple, de montrer le quotidien. Moi, je démarre direct avec la semaine de 4 jours pour les employés parce que j'ai déjà compris que les gens n'avaient plus le temps. Donc voilà, je vais aussi documenter tout ça hein, pour voir s'il y a des choses à ajuster, etc. J'estime ne pas avoir la vérité absolue non plus. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi d'impulser un mouvement et de construire aussi la plateforme avec les retours talents et employeurs. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi aussi pour ajuster les filtres, ajuster l'expérience utilisateur. Je suis très ouverte à ça.
Merci infiniment Laura pour à la fois pour ce projet qui est passionnant, à la fois pour je pense tout l'impact que cela va générer et ben pour ce partage aussi et donc un grand grand merci pour tout ça.
Et merci à toi, Clément. Ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît. Et c'est toujours un plaisir d'être interviewé par toi ou de t'interviewer. Et merci encore pour cette invitation. J'espère que les gens se reconnaîtront, en tout cas, dans le projet The Good Boss.
Je n'ai aucun doute là-dessus. Et bien évidemment, je vais vous mettre tous les liens pour aller voir The Good Boss et les différents réseaux de Laura pour pouvoir la contacter et la suivre, parce que ce que tu fais est top sur les réseaux sociaux. Il y a combien? Plus de 60 000 followers maintenant entre TikTok et Insta, c'est bien ça?
C'est à peu près 70 000, ouais.
Ouais, donc c'est ça. Donc, si 70 000 personnes qui te suivent, c'est qu'a priori, ce que tu fais est quand même vachement sympa. Donc, allez vite voir le contenu de Laura. Et encore 1 000 fois merci. Et à très bientôt, Laura.
Merci beaucoup, Clément.
Au revoir.